terre. C'est sa mère qui l'a convaincu de faire cette croisière, une façon de prendre de la distance, de réfléchir à son mariage, à son métier, au déménagement à venir. Partir seule avec les gosses, changer d'air, changer d'eau, la Méditerranée pour une fille de l'Atlantique. C'est plat, une mer petite, les côtes sont rapprochées, on a l'impression que l'Afrique pousse de tout son crâne contre l'Europe. D'ailleurs, c'est peut-être vrai, une mer tectonique appelée à se fermer. C'est le premier paragraphe du nouveau livre de Marie Dariussec intitulé « La mer à l'envers » que vous venez d'écouter. Mais comme chaque soir, on commence en musique avec quelqu'un qu'on aime beaucoup, c'est Gaël Faye pour Petit Pays.
Toyi gahugu kaniniya warapfunywe ni wapfuye waragowe ni wagoka gahugu gatoyi gahugu kaniniya.
Une feuille et un stylo apaisent mes délires d'insomniaque loin dans mon exil, petit pays d'Afrique des grands lacs. Remémorer ma vie naguère avant la guerre, trimant pour me rappeler mes sensations sans rapatriement. Petit pays, je t'envoie cette carte postale, ma rose, mon pétale, mon cristal, ma terre natale. Ça fait longtemps les jardins de Bougainvilliers, souvenirs enfermés dans la poussière d'un bouquin plié. Sous le soleil, les toits de tôle scintillent, les paysans défrichent la terre en mettant le feu sur des brindilles. Voyez, mon existence avait bien commencé, j'aimerais recommencer depuis le début, mais tu sais comment c'est. Et nous voilà perdus dans les rues de Saint-Denis. Avant qu'on soit sénile, on ira vivre à Guisseny. On fera trembler le sol comme les grondements de nos volcans. Alors petit pays, loin de la guerre, on s'envole quand.
Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya, warapfunywe ni wapfuye, waragowe ni wagoka. Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya.
Petit bout d'Afrique, perché en altitude, je doute de mes amours, tu resteras ma certitude. Réputation recouverte d'un linceul, petit pays, pendant 3 mois tout le monde t'a laissé seul. J'avoue, j'ai plaidé coupable de vous haïr quand tous les projecteurs étaient tournés vers le Zaïre. Il fallait reconstruire mon petit pays sur des ossements, des fosses communes et puis nos cauchemars incessants. Petit pays, te faire sourire sera ma rédemption, je t'offrirai ma vie, à commencer par cette chanson. L'écriture m'a soigné quand je partais en vrille, seulement laisse-moi pleurer quand arrivera ce maudit mois d'avril. Tu m'as appris le pardon pour que je fasse peau neuve, petit pays. Dans l'ombre, le diable continue ses manœuvres. Tu veux vivre malgré les cauchemars qui te hantent. Je suis semence d'exil, d'un résidu d'étoiles filantes.
Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya, warapfunywe ni wapfuye, waragowe ni wagoka. Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya.
Un soir d'amertume, entre le suicide et le meurtre, j'ai gribouillé ces quelques phrases de la pointe neutre de mon feutre. J'ai passé l'âge des pamphlets, quand on s'en canaille, je connais que l'amour et la crainte que celui-ci s'en aille. J'ai rêvé trop longtemps de silence et d'aurore boréale, à force d'être trop sage, je me suis pendu avec mon auréole. J'ai gribouillé des textes pour m'expliquer mes peines, Bujumbura et ma luciole dans mon errance européenne. Je suis né il y a longtemps, un mois d'août, et depuis, dans ma tête, c'est tous les jours la saison des doutes. Je me navre et je cherche un havre de paix. Quand l'Afrique se transforme en cadavre, les époques, ça meurt comme les amours, man. J'ai plus de sommeil et je veille comme un zamou. Laissez-moi vivre, parole de misanthrope, si t'aimant un seul de rêve qui soit allé jusqu'au bout du sien propre.
Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya, warapfunywe ni wapfuye, waragowe ni wagoka.
Petit pays, quand tu pleures, je pleure. Quand tu ris, je ris. Quand tu meurs, je meurs. Quand tu vis, je vis. Petit pays, je saigne de tes blessures.
Petit pays,
je t'aime, ça j'en suis sûr.
Warapfunywe ni wapfuye, waragowe ni wagoka. Gaugu gatoyi.
Quelle est votre langue maternelle, Marie Dariosek?
C'est le basque. Ma mère me parlait basque. Je le comprends, mais je ne le parle pas. Blocage névrotique. Mon père ne le parlait pas.
Et à mon avis, c'est très important pour comprendre les enjeux de votre écriture et le désir d'écriture.
Oui, parce que Paul, mon éditeur, Paul Tchaikovsky-Laurence, me le disait souvent. Il me disait que c'était une richesse et une chance pour un écrivain ou une écrivaine d'être né dans une autre langue que le français. Parce qu'on sait depuis l'origine, depuis tout bébé, que le français est une langue parmi d'autres. Que c'est pas un temple sacré ou un état de nature. Et on a le droit de jouer avec et on a le droit de s'amuser, d'inventer un autre français, de creuser dans le français son français à soi. Et par ailleurs, le basque est une langue sans genre. C'est assez rare dans les langues. Et donc, on peut parler de quelqu'un très longtemps sans savoir si c'est un homme ou une femme. Ce qui est très intéressant, c'est pas une langue binaire. Alors, je pense que ça m'a fait des choses au cerveau qui ont fait aussi l'écrivain ou l'écrivaine que je suis.
Peut-être dans le corps aussi.
Oui, parce qu'on est structuré par le langage et par le langage de sa mère. Ma mère me cajolait en basque et m'engueulait parfois en basque. Et ça fait de moi, l'écrivaine que je suis, la française que je suis aussi. Hein. Je suis basque et française et européenne, sans problème. Et je crois qu'aussi, j'ai des racines très profondes, très fortes. Et je crois que c'est une chance pour voyager. Je pense que je suis très peu angoissée quand je m'en vais, parce que je sais que je vais revenir quelque part. Je pense que c'est beaucoup plus facile de prendre le large comme ça quand on sait qu'on peut rentrer. Et il y a plein de gens qui ont des racines, mais qui peuvent pas rentrer aussi. Et puis il y a d'autres gens aussi qui ont pas de racines, et c'est très bien comme ça, mais qui sont peut-être dans un sol un peu différent du mien. J'ai eu cette chance d'être d'un pays très... très facile à décrire d'une certaine façon, très, très historiquement marqué, très politique aussi. Ça m'a apporté beaucoup, voilà.
Adolescence solitaire, un peu tourmentée, c'est pas par l'écriture que vous avez commencé, mais pourtant vous teniez, comme vos copines, un journal intime. Mais il était sonore, pourquoi?
Ah, vous en savez des choses. Oui, je suis vraiment une écrivaine de la fiction et de l'imaginaire, pour des tas de raisons. Mais comme toute adolescente ou adolescent, j'avais besoin de penser à moi, pour m'en débarrasser peut-être. Et donc j'avais pas envie d'écrire un journal intime, ça m'ennuyait, c'est déjà vécu, on sait déjà ce qui s'est passé, il reste plus qu'à le dire. Alors j'ai enregistré ces cassettes, je les ai toujours, et c'est un réservoir incroyable, j'ai écrit certains de mes livres avec, un qui s'appelle Clève, sur l'adolescence. Ce qui me frappe beaucoup dans ces cassettes, c'est les stéréotypes, c'est les phrases toutes faites des adolescentes et des adolescents, tout ce que je tirais des magazines féminins, tout ce qu'on se racontait entre nous. C'est un langage très codifié des années 80, qui est très riche.
Mais vous êtes une écrivaine qui justement s'attaque à la langue pour essayer d'en détruire tous les clichés. Et ce, depuis le premier, qui a été une révélation, vous aviez, je crois, même pas 26 ans, ça s'appelait Truisme. Ça a été une révélation, ça a été aussi des traductions dans le monde entier, vous ne deviez pas en revenir.
J'étais stupéfaite et très contente. Mes truismes, c'était déjà programmatique, c'est-à-dire les truismes, c'est les clichés, les stéréotypes, les vérités d'évidence qu'il faut défaire. Et j'ai pas arrêté après, en fait. Je me suis attaquée aux clichés sur les bébés, dans Le Bébé, aux clichés sur les jeunes filles, dans Clève et d'autres romans, aux clichés sur la passion, sur le racisme. C'est mon boulot, voilà, c'est ce que je fais. Et voilà.
Peut-on dire que vous êtes une écrivaine de l'objectivité?
Ouh, je sais pas, je crois pas, non. Mes personnages sont toujours dans une subjectivité très forte. On est avec eux ou avec elles, mais j'essaye de déconstruire. C'est un mot qui on fait dire n'importe quoi aujourd'hui, mais j'essaye d'essayer de trouver des phrases pour des sensations qui sont englouties sous les phrases toutes faites. J'essaie de les tirer de là. Enfin, j'aime bien cette image de soulever le rocher pour voir ce qu'il y a dessous, qui grouille encore, qui est encore vivant. Et voilà.
Votre matière d'écriture est très singulière, vous avez un rythme effréné, des phrases assez courtes, quelquefois réduites à un adjectif ou à un mot. Manifestement, cette texture-là vous importe. Lisez-vous à haute voix vos propres écritures? Est-ce important cette cadence qui nous prend, nous lectrices et lecteurs?
Les dernières relectures, bon, et je relis évidemment des centaines de fois les livres que j'écris, enfin le manuscrit, quoi. Les dernières lectures, je les fais à voix haute pour réentendre le rythme que j'avais en tête au tout début. Dans le premier jet du roman, il y a ce rythme qui m'emmène quelque part, qui a un rythme vraiment, je pourrais le claquer avec mes doigts. Enfin,
c'est un peu comme du rap de Gaël Faye tout à l'heure.
Oui, ou du jazz. Enfin, c'est quelque chose de très rythmique et avec une gamme, une harmonie particulière. Et parfois, je la perds. C'est très difficile d'écrire un livre. Donc, dans le milieu du livre, je me perds. Mais c'est normal. Je me perds toujours. Puis à un moment, je le reprends. Alors je coupe. Et la dernière version, je la dis à voix haute. C'est vrai qu'il y a un petit côté slam. Il faut que je réentende cette chanson qui me portait au début. Truisme, c'est, par exemple, c'est vraiment une chanson. C'est presque une comptine. Mais tous mes romans, il y a une chanson dans ma tête pour chaque roman.
On peut dire que cette chanson, elle s'articule sur des thématiques qui reviennent de manière obsessionnelle à l'intérieur de tous vos livres, Marie Darrieussecq. C'est la mère, dans tous les sens du terme, dans la double acception, mais aussi le corps, la mère, le corps et l'enfance, la recherche de l'enfance.
Oui, alors le corps, après, bon, tous les écrivains écrivent sur le corps, je crois, mais chez moi, il est toujours en trop ou en pas assez, il est toujours en excès ou en fantôme, en débordement ou en spectre, et puis il y a beaucoup de gens qui disparaissent aussi dans mes romans. Je bataille avec ça, j'ai toujours pas bien attrapé, je crois, ce corps fugitif, mais c'est lui qui m'occupe, là, oui.
Je vous propose d'écouter la voix de Georges Perec.
Avec plaisir.
Georges Perec, auquel on peut penser quand on vous lit. On va l'écouter parler de son livre « Les choses ». C'est une archive INA du 7 décembre 1965.
J'ai commencé un livre un jour. Quand on commence un livre, on essaye, on rassemble, enfin, on cherche un peu partout, enfin, on furette, on est extrêmement attentif à des tas de choses. Moi, j'ai commencé, c'était une espèce de roman d'aventure. Enfin, et petit à petit, ce livre s'est mis à tourner autour d'un certain nombre de choses impossibles. Par exemple, j'ai ressenti l'impossibilité de l'écrire un dialogue, de faire parler des personnages. Ensuite, une espèce d'impossibilité de créer des personnages, des types sociaux, enfin comme Balzac, quoi, ou comme certains personnages de Stendhal, ou même comme certains personnages de Flaubert. Et puis enfin, au bout d'un certain temps, mon projet est devenu un peu plus clair et j'ai eu envie d'écrire, si vous voulez, un livre sur les rues aujourd'hui. Et alors j'ai conçu ce livre, d'une part comme l'étude d'un milieu, et non pas comme l'étude de personne, non pas comme quelque chose qui arrive à quelqu'un, mais comme la relation que des êtres peuvent entretenir avec les choses. Comme un espèce de roman d'avant l'existence.
Est-ce que vous êtes une petite fille de Georges Perec, Marie Darrieussecq?
Mon papa s'appelle Perec et ma maman s'appelle Duras. Chez POL, mon éditeur.
Quelle chance!
Mais je suis allée chez POL, j'avais la chance d'avoir le choix et je suis allée chez POL parce que Paul avait publié et Perec et Duras. C'est mes deux grands totems, quoi. Et Dieu sait s'ils sont différents. Perec était merveilleux, obsessionnel. Il cherchait, il alignait, il faisait des listes. Et je crois que Duras était beaucoup plus instinctive. Elle avançait comme ça. Elle faisait pas de plan, Duras. Alors que Perec, qui faisait carrément des cahiers des charges. Je suis au milieu, j'essaie de creuser ma propre façon de faire, mais je vois très bien ce qu'il veut dire au début des romans à rassembler comme ça toutes sortes de petites choses et on se dit ça n'a rien à voir et en fait si, et l'inconscient fait très bien son travail de tri et tout à coup ça prend forme mais lui, il exagère on dirait qu'il écrit comme ça à l'instinct. Lui, il faisait des plans et des sacrés plans. Moi, je sais pas faire ça.
Vous y allez à l'instinct?
J'y vais au point que, enfin, certains de mes livres, j'ai pas réussi à les finir.
Celui-ci a pris beaucoup de temps à se mettre en place à l'intérieur de votre tête et de votre cerveau.
Celui-ci m'a posé, La mère à l'envers m'a posé des problèmes à la fois éthiques et esthétiques. Enfin, j'étais à la fois empêtrée dans le réel parce que ce réel de la migration de masse qui est notre actualité, enfin, qui est le grand événement contemporain, ce réel nous est sans arrêt en avant de nous, enfin, il nous dépasse. On ne sait même pas nommer les gens qui voyagent. Là, on dit les migrants. C'est pas satisfaisant comme mot. Enfin, ça les maintient dans un participe présent. Là, migrants, ils sont constamment en migration. Ils arrivent jamais, quoi. Les exilés, les réfugiés, les demandeurs d'asile, les voyageurs, les aventuriers. Et pour des gens qui les veulent pas, ça va être des envahisseurs. Ça va être. On ne sait pas les nommer. Et ça, c'est la grande affaire de la littérature. Là, vraiment, c'est le. Ces espaces où collectivement on ne sait pas mettre de mots, c'est absolument le travail et le devoir de la littérature. Donc j'étais empêtrée avec ça. Et puis, je recueillais beaucoup de paroles de migrants, pour les appeler comme ça, et dans toutes sortes de pays, et puis en France. Et puis, je savais plus écrire ce livre. J'étais, à partir du moment où il fallait incarner Younes, c'est son prénom qui m'a sauvée, Jonas, la baleine, revenir au mythe, être recraché sur le rivage. Ça m'a tiré d'affaire.
Quelle est la part d'autobiographie et la part de fiction, ainsi que la part de l'enquête à l'intérieur de votre travail d'écriture, Marie Darrieussecq? C'est absolument impossible de pouvoir, en tout cas en tant que lectrice, de déceler. On sait que tout ce que vous dites, manifestement, est documenté. Mm-hmm. Je crois savoir que vous avez été au Niger. Je crois savoir que l'histoire de Younes y parle à l'intérieur du dernier tiers de votre livre. Et ce sont des propos vrais. On est dans une vérité de l'existence. Mmh. On est dans le nu de l'existence. Mmh. De la même manière que ce personnage qui vous ressemble beaucoup, qui est Rose, qui est la narratrice, eh bien, on se dit qu'elle a fait ce chemin-là, qu'elle a voulu accueillir un migrant, etc., etc. Donc, comment ça s'entremêle, tout ça?
Ça s'entremêle sur 5 années au moins de travail, parce qu'évidemment, j'y pense depuis très longtemps, enfin, depuis qu'ils viennent, quoi.
Pour autant, c'est pas du tout un roman à thèse, hein, il faut préciser.
Ah, vraiment. Et puis, je suis désemparée, comme Rose. Je voulais faire un roman sur notre désarroi à tous. J'ai rencontré plein de gens engagés, bénévoles, des héros. C'est aussi un livre sur l'héroïsme. J'ai rencontré plein de migrants aussi, et leurs relations, tout ça. Mais j'étais toujours J'écoutais beaucoup. Je savais plus.
Vous notiez, vous enregistriez.
Alors, bon, j'ai noté. Au Niger, j'ai beaucoup rencontré les gens qu'on appelait à l'époque, j'étais en 2014, les refoulés de Libye. Donc, s'ils étaient dans une nasse au Niger, le Niger.
Les échoués,
les stranded, comme ils disaient aussi en anglais. C'était des gens plutôt du golfe de Guinée, donc une Afrique très verte, très luxuriante et très pauvre. Et donc, ils voulaient l'Europe, mais ils avaient été bloqués en Libye ou en Algérie. Et alors, ils étaient au Niger. Et ils avaient aussi peu à faire dans le Sahara que moi. Et le Niger était le pays le. Ils font vraiment ce qu'ils peuvent au Niger, mais très peu à même de les accueillir, puisqu'eux-mêmes sont quand même très pauvre. Alors j'écoutais et j'étais pleine évidemment de ma culpabilité d'occidentale, et en même temps, très souvent, ces gens me disaient, mais moi je vais rentrer à l'hôtel, là, je vais au bord de ma piscine, comme Rose, avec mes daiquiris, mes mojitos, et ils me disaient, mais c'est formidable parce qu'il faut que tu sois en forme pour pouvoir écrire ce qu'on vient de te raconter. Et ça m'a donné beaucoup de force. Et effectivement, je veux dire, la seule chose que je sais vraiment faire, c'est d'écrire. Et voilà, donc j'ai à la fois recueilli verbatim des tas de témoignages que j'ai parfois publiés dans 21 ou dans Libération. Et au moment d'incarner ce migrant, je pouvais pas en prendre un parmi les autres. Et je pouvais pas non plus en faire une sorte de pantin, de montage en montant. Donc Younes, c'est vraiment l'incarnation de 4 ou 5 jeunes gens qui avaient à peu près la même expérience et qui m'ont tellement, aidé à écrire ce livre, en fait. C'est vraiment porté par leur voix, quoi. Et moi, j'étais Rose. Alors, c'est très autobiographique pour ça, parce qu'elle est. Tous mes personnages de femmes dans mes romans, c'est moi si je n'écrivais pas. Voilà. C'est très simple. C'est moi si je n'écrivais pas. Alors, l'écriture me donne une capacité d'analyse et de calme, en fait, aussi, qui est une grande chance. Mais si j'écrivais pas, je serais comme Rose, à me battre avec le réel, avec obstination, mais avec des arrois, je crois. Enfin, j'en sais pas plus qu'elle, hein. Mais j'ai la chance de pouvoir l'écrire, c'est tout. Et elle, eh ben, elle fait ce qu'elle peut. Et récemment, je suis tombée sur la parole d'un poilu de Verdun, qui est mort, mais qui est mort très vieux, et qui a dit, c'est quoi un héros? Un héros, c'est quelqu'un qui fait ce qu'il peut quand les autres ne le font pas. Ben, j'ai trouvé ça très bien comme définition. Parce que Rose, c'est pas une héroïne, mais il y a juste un jour, où elle fait ce qu'elle peut. Voilà. Et ce jour-là, elle est quand même héroïque. Elle va le chercher. Voilà.
Mais il y a beaucoup de Français qui sont comme Rose et qui font ce qu'ils peuvent et dont on parle jamais.
Alors, faire ce qu'on peut, c'est aussi apporter du shampoing porte de la chapelle à des gens qui n'en ont pas. Enfin, je veux dire, ça commence par là. Vraiment, je n'ai absolument aucun jugement sur ce que peuvent les gens. J'aime bien qu'ils le fassent. Voilà, c'est tout.
Je vous propose d'écouter la voix d'Annie Ernaux à propos de son texte Passion simple. Elle va essayer de nous expliquer quelle différence elle fait entre l'autobiographie et l'exhibitionnisme. C'est une archive INA du 8 novembre 2002.
Il a besoin absolument de cette coïncidence des temps. Et lorsque j'écris, il y a, je crois avoir écrit ça dans un autre texte, peut-être dans l'Occupation, mais écrire, c'est ne pas être vu. Et même, à la limite, on vous verrait en train d'écrire dans un café, comme cela, on ne peut pas savoir ce qu'il y a d'écrit si vous ne le montrez pas. Et cette invisibilité et aussi ce délai entre ce qui a été vécu et qui vous appartient, comme c'est le cas de Passion simple, de l'Occupation, et puis le moment où le livre sortira, ça se situe dans d'autres espaces-temps. D'autant plus que lorsque le livre est publié, j'ai vraiment l'impression que d'une étrangeté radicale. C'est que lorsque, à partir du moment où il y a un texte, c'est-à-dire quelque chose qui existe comme un film ou comme un tableau, c'est ça un livre. Ça a une existence à soi, autonome, complètement autonome, où il y a eu un travail d'écriture à partir des choses réelles, des choses vues, des émotions, et tout cela est devenu mot, c'est-à-dire quelque chose qui a une autre existence. Moi, je tiens beaucoup à cette idée d'autre existence.
Vous reconnaissez-vous dans les propos que vient de tenir Annie Ernaux ? Est-ce qu'il y a une machine inconsciente qui se met en route à partir du moment où un livre est en train de s'écrire et où tout le réel est rattrapé
oui.
par votre regard, Marie Dariussecq ?
Il faut que cette machine se mette en route. Moi, j'ai mis presque 5 ans à écrire ce roman. C'est extrêmement juste ce qu'elle dit, Annie Ernaux. Enfin, j'ai beaucoup d'admiration pour son œuvre, même si on n'écrit pas du tout dans la même zone. Moi, je suis dans la zone de la fiction. Mais cette difficulté que j'avais pendant ces 5 années, c'est que justement, la machine ne se mettait pas en route. Et j'arrivais toujours au même endroit du roman. C'est un endroit très concret, c'est à peu près aux 2/3. Rose est dans sa cuisine. Elle a fait cette croisière, elle a croisé ce jeune migrant, elle lui a donné le téléphone de son fils. Ça roulait. Je l'avais, quoi. C'était comme elle dit, c'était déjà à distance de moi. Et puis elle déménage au sud de la France et elle est dans sa cuisine et il ne se passe rien. Et je voulais absolument qu'il y ait ça dans le livre. Il ne se passe plus rien dans sa vie. Elle est plantée là. Elle l'a voulu, ce déménagement. Elle est plantée là. Et puis grâce à plein de choses, toutes ces petites choses dont parle Pérec, là, qu'on attrape, grâce au prénom de Younes, grâce à David Bowie et sa chanson We Can Be Heroes Just for One Day, comme des phrases. Nous pouvons être des héros juste pour une fois, une journée. C'est des phrases comme ça qui font presque talisman. J'ai redémarré. Le roman a pris forme. Mais je vais vous dire une chose. Très récemment, je suis insomniaque. Je me suis réveillée à 4h du matin et tout à coup, je me suis dit, ça ressemble un peu à ce que dit Annie Ernaux avec d'autres mots. Je me suis dit, il y a des gens réels en ce moment qui sont en train de lire mon livre et ils sont passés par la cuisine de Rose. Et ils ont traversé la cuisine et ils ont continué le livre parce que le livre existe. Je me rappelais des difficultés infinies que j'avais à sortir de cette cuisine avec Rose. Mais les lecteurs, ils sortaient de la cuisine et le livre existait et ils le lisaient pour de vrai dans le monde réel. Je vous jure que ça, à 14 du matin, c'est féerique. C'est quelque chose, c'est très difficile à croire. Il y a ce sentiment d'étrangeté très fort dont elle parle.
Oui, mais ce que vous oubliez, parce que vous ne pensez pas forcément à nous tous et nous toutes, lectrices et lecteurs, Marie Dariussecq, c'est que ce personnage de Rose, d'abord, il existe depuis longtemps dans votre œuvre littéraire, on le retrouve, et que d'autre part, vous le rendez avec tellement d'humour, d'acidité, de côté complètement percutant et vraiment déjanté, voilà, c'est un personnage déjanté qui ressemble beaucoup à chacune et chacun d'entre nous, avec ses bons côtés, ses mauvais côtés, que Rose, elle existe pour nous. Vous nous la rendez réelle.
Non, mais c'est chouette, je suis contente de ça. Pour moi, elle existe très fort. Et oui, elle est vraiment pas parfaite et elle picole énormément.
Ouais, mais son mari aussi.
Alors voilà, elle se cache derrière l'alcoolisme avéré de son mari pour en fait picoler tranquillement. Et dès qu'elle a un problème, y compris par rapport à ce jeune Younes, elle s'enfile des mojitos, quoi. Jusqu'à découvrir qu'en fait, plus personne ne boit de mojitos parce qu'elle a 45 ans et que les jeunes trentenaires, ils boivent des spritz, c'est ça? Oui, voilà. Donc, je m'amuse aussi avec elle. C'est aussi quelqu'un qui patine dans, sur le monde, quoi. Elle est psychologue, elle est un peu bizarre comme psychologue, et elle c'est pas une très bonne mère. Enfin, elle fait ce qu'elle peut, quoi. Et elle m'est très sympathique.
Comme dans tous vos romans, Marie Dariussec, on a l'impression que les personnages flottent. Mm-hmm. Qu'effectivement, ils savent qu'ils sont dans le monde, qu'ils sont vivants. En tout cas, ils se pensent à peu près vivants, pas totalement, oui, tout le temps d'ailleurs. Mm-hmm. Mais enfin, ils font des choses, ils agissent. Rose, elle fait ce qu'elle peut. Son mari, il est agent immobilier. Mmh. Il se saoule la gueule tous les soirs. Mais pourquoi il se saoule la gueule? C'est parce que il a eu une journée d'enfer à parler à des gens à qui il a essayé de vendre du rêve tout en sachant que c'était pas vrai, etc., etc. Mais il y a toujours ce sentiment que finalement, on va y arriver. On va y arriver. Oui. L'issue, elle est possible. Et il y a aussi autre chose qui est absolument extraordinaire dans votre dernier roman, Marie Dariussec, c'est que cette femme, Rose, 45 ans, elle a quitté Paris parce qu'elle pouvait plus, comme beaucoup de Parisiens. On a vu les derniers chiffres dans les journaux la semaine dernière. Les gens peuvent plus habiter Paris, les loyers sont trop chers, etc. Donc elle est venue retrouver son pays d'enfance. Mmh. Et elle est déçue par cette nouvelle vie. Elle est déçue. Mmh. Et donc, à partir de cette déception, eh bien, il faut qu'elle se trouve un autre goût du monde.
C'est ça. Oui, je crois que c'est très juste. Et au fond, je crois que j'y avais pas pensé aussi nettement. C'est, quand on écrit, on est vraiment aussi assez à l'instinct, quoi. Je pense qu'effectivement, c'est parce que tout simplement, elle s'ennuie dans son village natal, qu'elle va s'embarquer dans cette grande histoire-là de sauvetage, quand même, de ce jeune homme qui ne lui est rien, quand même, au départ. Elle se sent très étrangère à tout ça. Elle voudrait absolument rester étrangère au monde tel qu'il va et tel qu'il l'effraie. Elle est aussi très inquiète, comme nous tous aussi.
Enfin, à partir du moment où elle le voit, d'abord, elle lui donne effectivement le portable de son fils.
Et pas le sien, notez bien.
Oui, pas le sien comme par hasard, mais elle va penser à lui tout le temps et essayer de cartographier tous ses errements et tout son cheminement.
Elle est embêtée avec cette histoire. Elle sait pas très bien ce qu'il lui a pris de lui donner ce téléphone. Son fils, évidemment, est furieux. Alors, mon vrai fils dans la vraie vie m'a expliqué que, mais l'idée qu'on donne son téléphone à quelqu'un d'autre, mais c'était juste pas imaginable. Il m'a beaucoup aidé sur la technologie de ces appareils, comment on peut suivre quelqu'un dans l'espace. C'est drôle parce que je me rappelle très bien de moi, jeune écrivaine, découvrant les téléphones portables et me disant, mais ça, on peut rien en faire dans un roman. Évidemment que si, c'est une mécanique narrative formidable de mise en contact des personnages, etc. Et elle patauge, elle s'est mise un peu dans le caca, comme elle dit elle-même. Elle a créé une connexion avec ce jeune homme qui, lui, ne rêve que d'Angleterre, comme beaucoup des jeunes migrants que j'ai rencontrés. Et elle va finir par l'aider. Mais elle n'a pas tellement envie, hein. Mais elle ne peut pas.
Elle va l'accueillir, on ne va pas tout dire. Oui. Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez Le Choix Musical de Marie Dariussec, c'est Abdelmalik.
Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui pleure un rêve qui prendra vie une fois passé Gibraltar. Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui se demande si l'histoire le retiendra comme celui qui portait le nom de cette montagne. Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui meurt sa vie bête de gangsta rappeur. Mais sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune homme qui va naître, qui va être celui que les tours empêchaient d'être. Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui boit, dans ce bar où les espoirs se bousculent, une simple canette de Fanta. Il cherche comme un chien sans collier le foyer qu'il n'a en fait jamais eu, et se dit que peut-être, bientôt, il ne cherchera plus. Et ça rit autour de lui, et ça pleure au fond de lui. Faut rien dire et tout est dit. Et soudain il se fait derviche tourneur. Il danse sur le bar, il danse, il n'a plus peur. Enfin il hurle comme un fakir, de la vie devient disciple. Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui prend vie, qui chante, dit enfin je t'aime à cette vie. Puis les autres le sentent, le suivent. Ils veulent être or puisqu'ils sont cuivre. Comme ce soleil qui danse, ils veulent se gorger d'étoiles et déchirer à leur tour cette peur qui les voile. Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui n'est plus esclave, qui crie comme les braves,
même la mort n'est plus entrave. Il appelle au courage celles et ceux qui n'ont plus confiance. Il dit, ramons tous à la même cadence. Dans le bar, il y a un pianiste et le piano est sur les genoux. Le jeune noir tape des mains, hurle comme un fou. Fallait qu'elle sorte cette haine sourde qui le tenait en laisse, qui le démontait pièce par pièce. Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui enfin voit la lune le pointer du doigt et le soleil le prendre dans ses bras. Maintenant, il pleure de joie, souffle et se rassoit. Désormais, l'amour seul sur lui a des droits. Sur le détroit de Gibraltar, un jeune noir prend ses valises, sort du piano bar, échange ses quelques devises. Encore gros d'émotion, il regarde derrière lui et embarque sur le bateau. Il n'est pas réellement tard, le soleil est encore haut. Du détroit de Gibraltar, un jeune noir vogue. Vogue vers le Maroc tout proche. Vogue vers ce Maroc qui fera de lui un homme. Sur le détroit de Gibraltar. Sur le détroit de Gibraltar. Vogue. Vogue vers le merveilleux royaume du Maroc. Sur le détroit de Gibraltar. Vogue. Vogue vers le merveilleux royaume du Maroc. Du Maroc.
Un autre type arrivait, saluait le flic, décidément quel passage dans cette station, et disait « Bonsoir Rose », puis se tournant vers le flic, « Elle est avec nous ». Ah ouais, le type avait de longues dreadlocks blondes, il était d'une beauté saisissante, gueule tavelée de rocker du Nord. Rose en ressentit un choc dans la poitrine, une autre vie s'ouvre, un aperçu sur un avenir même bref, dans les bras du rocker, voilà autre chose. Et aussi autoritaire que le flic, il lui tendait par la fenêtre un sac en plastique au champ, qu'elle mette ça. Les deux hommes s'accoudaient au toit de sa voiture. On a un blessé, entendit-elle avec le mot hôpital, et elle a eu des images de trêve pendant une guerre. Elle enfila une chasuble du Secours catholique, beaucoup trop grande, qui lui faisait de larges épaules et quasi une traîne. Là, je viens de lire un court extrait de votre nouveau livre intitulé « La mer à l'envers ». On est là au moment où Rose réussit à retrouver Younes grâce au téléphone portable de son fils. Et l'absence totale de manichéisme, la drôlerie avec laquelle vous nous restituez le personnage de Rose, la manière dont vous décrivez le réel de la jungle de Calais, des cheminements hélas tragiques de ces migrants qui continuent à essayer de passer en Angleterre, tout ça constitue une espèce de matière de réflexion, d'émotion, et en même temps, ça nous fait réfléchir à quelles sont nos limites, à nous, citoyens. Est-ce que l'écrivain est là plutôt pour nous alerter sur ce qui va pas bien dans le monde, pour nous faire réfléchir ou pour nous émouvoir?
Moi, j'aime bien l'idée d'ouvrir une fenêtre là où on n'avait pas forcément regardé, même une petite lucarne, un vasistas, enfin une petite fenêtre, de pencher la tête d'une autre façon. Voilà. On est abreuvé, je trouve pas l'expression, on a trop d'informations et on est trop accablé de tristesse, de désarroi, d'impuissance devant tous les drames en Méditerranée, devant tous ces gens qui se noient, les enfants, etc. Nous aussi, on n'en peut plus. Tout le monde. Enfin, et à Calais ou dans d'autres points de passage comme ça, tout le monde est épuisé. Les gendarmes, les flics, les camionneurs. On n'en parle pas assez des camionneurs. Du stress incroyable du camionneur. Il faut pas qu'il y ait quelqu'un dans sa cargaison de tomates parce qu'il va perdre son boulot. Le Marocain camionneur qui est payé 600 euros par mois. Enfin, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Bon, je les ai rencontrés. Je me suis trouvée affublée d'une chasuble, moi aussi, du Secours catholique, parce que au moins comme ça, on peut aller partout. Parce qu'il faut savoir qu'il y a plein de zones à Calais qui sont plus des espaces publics. La station totale de la zone industrielle, c'est un endroit, c'est le dernier point de passage avant l'Angleterre, avant les contrôles à la chaleur, etc. Je sais pas ce qui va se passer avec le Brexit, mais dans l'état actuel des choses, le tunnel, c'est absolument plus possible. La mer, c'est extrêmement dangereux. Donc, ils se mettent à 30 sur un camion, il y en a un qui passe au bout de plusieurs tentatives. Et en fait, moi, comme écrivaine, m'abasourdit, mais vraiment en termes de son, de sonorité. C'est tous les discours des politiques, et vraiment je leur crache pas dessus, ils font ce qu'ils peuvent. Je pense que la majorité d'entre eux sont pleins de bonne volonté face à ça. Sauf que là, ce qu'ils font aboutit à la station-service de la zone industrielle de Calais, qui est un délire collectif. Donc il y a 200 voyageurs qui essaient de prendre les 40 camions qui sont là, et il y a 200 gendarmes, et ça dure toute la nuit. Et c'est, on aboutit à ça, à ce point de passage. J'étais hantée par l'idée du passe-muraille. Je me disais, est-ce qu'il leur reste ? C'est ça, c'est, il faudrait qu'ils passent, mais qu'on passe à travers un mur, atome par atome, quoi. J'étais totalement... c'était une sorte d'hallucination collective. Et donc j'ai pas la solution. Enfin si, je pense qu'il faut organiser rationnellement une migration qui de toute façon va s'effectuer. Enfin bon, j'en suis là comme citoyenne, mais c'est pas intéressant. Je veux dire, on est plein à penser ça. Il faut le faire. Voilà, c'est tout. Moi, tout ce que je peux faire, c'est d'essayer d'ouvrir une petite fenêtre et de vous dire, regardez la station-service là. Regardez le paquebot de croisière qui est au large de Lampedusa. Regardez ces incroyables vignettes de notre espace géographique, de notre quotidien, et la collusion entre deux univers qui se touchent mais qui n'ont absolument rien à voir. Et c'est quand même l'aboutissement d'un système délirant, enfin d'inégalité, d'exploitation. Enfin, c'est tout ce que je peux dire, quoi. J'ai l'impression de dire des évidences, mais je sais les mettre en mouvement dans un roman. Voilà, c'est tout ce que je peux faire, moi. Voilà.
Je vous propose d'écouter la voix de Jacques Derrida. C'était au moment de la sortie de son livre De l'hospitalité. C'est une archive INA du 29 décembre 1997.
Il y a toujours entre l'hospitalité et l'improvisation, qui est notre situation à l'instant, une affinité essentielle. L'acte d'hospitalité doit comporter une part d'imprévisibilité. L'autre arrive. Évidemment, il y a des rites, il y a des conventions, mais le moment d'hospitalité est celui de la surprise, où on ne demande rien, on ouvre la porte. Mais cette hospitalité absolue, s'il y en a, est toujours justement impossible. J'entends par là, non pas nécessairement quelque chose de négatif. C'est ce qu'il faut faire, il faut faire l'impossible. Et dans tous les textes auxquels vous faites allusion, il y a ce souci à la fois de penser ou d'endurer une limite, par exemple celle de l'hospitalité, et de penser un impossible qui est néanmoins désiré comme tel et qui n'est pas nécessairement négatif. Au fond, il s'agit de savoir si l'appel de l'impossible, par exemple accueillir l'autre sans poser aucune condition, sans même lui demander son nom à la limite, hein, sans parler de son passeport et de ses papiers, hein, le laisser non seulement entrer, mais éventuellement bouleverser les conditions du chez-soi dans lequel on l'accueille, ça c'est vraiment quelque chose d'impossible, que nous jugerons impossible à différents lieux de l'impossible, mais en tout cas cette hospitalité pure, inconditionnelle, est impossible.
Que pensez-vous des propos de Jacques Derrida, qui était visionnaire ?
Et il est fortiche, ouais. L'improvisation, il a entièrement raison. C'est très très fatigant d'accueillir quelqu'un. C'est épuisant, ça dérange tout. Ça et bien entendu, ça apporte des choses inouïes. Moi, je l'ai eu fait très brièvement et je sais que sur le moment, ça a été vraiment réellement difficile. Et les souvenirs que j'en ai sont extraordinaires. Donc, il y a aussi ça. C'est ce que je rejoins. Enfin, c'est le temps du délai. C'est curieux. Il faut improviser au présent, mais les souvenirs qu'on en aura. Ça va occuper toute une vie. Enfin, il y a une grande richesse là-dedans. Non, c'est à Calais, il y avait des vrais héros, c'est-à-dire des gens qui accueillaient au long cours. Hein, il y avait cette femme qui s'appelle Sylvie et qui disait, elle avait régulièrement 10 jeunes Soudanais chez elle. C'était un petit deux pièces. Hein, et il y avait des matelas, etc. Et elle disait, oh, le problème, c'est que ils se douchent, ils pensent pas à passer la serpillière. Exactement comme mes ados à la maison. Parce que évidemment, la plupart de ces migrants, c'est des adolescents. Ou des grands adolescents. Et donc, c'est des gosses. Oui, ils ne vont pas mettre leur assiette au lave-vaisselle. D'abord, chez eux, il n'y a peut-être pas de lave-vaisselle. En fait, tout fait étonnement aussi. Et oui, quand ils se douchent, ils ne pensent pas à passer la serpillière parce que c'est des gosses. Et ça, c'est à la fois très fatigant et c'est drôle aussi, quoi. C'est marrant. Et non, enfin, voilà, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas.
C'est marrant, c'est perturbant, c'est compliqué. C'est ce que vous décrivez d'ailleurs à la fin de votre roman La mère à l'envers, Marie Dariussec. C'est comment la famille décide d'accueillir ce Younes, donc le garçon, la fille, le père, la mère. C'est très compliqué, d'autant plus qu'il est blessé. On va pas tout raconter, qu'il va rentrer en rééducation. Mais ce qui me paraît intéressant, au-delà de cette thématique de la générosité, de l'hospitalité, de l'accueil, c'est que vous creusez toujours le même sillon de questionnement par la grâce de vos mots et par la thématique qui vous obsède, et ce depuis maintenant plus de 20 ans, c'est l'autre. Qui est l'autre ? Parce que votre Rose, celle qui est votre sœur, qui n'écrit pas, ben votre Rose, elle s'ennuie faire, ma Clève.
Bien sûr.
Et ce Younes, eh bien, il va lui donner de la pâture pour donner du sel à l'existence.
Et simplement aussi de la distraction. On a le droit de voir ça comme ça. Des conversations, des étonnements, des petites vidéos qu'il reçoit de son pays. Ah, mais il a donc une maman, lui aussi. Ah, il n'a pas de père, mais il y a un oncle. Ah, ben c'était qui cet oncle ? On entre dans l'histoire de quelqu'un, dans la famille comme ça, au loin de quelqu'un. Et on avait accueilli brièvement un enfant à la maison. Ça avait été compliqué avec mes propres enfants. Parce que c'est la personne à qui on donne comme ça l'hospitalité, pour dire ce grand mot, elle prend de la place. C'est ce qu'elle fait. Et elle prend aussi la place des enfants. Je veux dire, il faut faire de la place. Donc il y a des phénomènes de jalousie, c'est franchement épuisant. Mais j'ai aussi écrit des livres avec tout ça. Enfin, c'est, je sais pas quoi vous dire sur l'autre. J'en sais rien. Moi, j'ai l'impression d'être tout le temps moi-même. Je sais pas très bien qui je suis. Je m'en fiche au fond. Enfin, ça me permet d'écrire des livres. Je me rends poreuse comme ça. Je suis traversée par.
Ben, vous écrivez des livres extrêmement différents, dans des registres totalement étrangers les uns aux autres. Chaque publication d'un de vos livres est un mystère, parce que non seulement les mêmes thèmes se retrouvent d'un livre à l'autre, mais les registres littéraires sont totalement hétérogènes. Vous pouvez aller de la science-fiction et de la dystopie comme dans l'avant-dernier, en passant par des livres bouleversants comme Tom est mort, en passant par des livres très inquiétants, parce qu'on peut dire que ce qui vous caractérise, c'est justement l'attrait de l'inquiétante étrangeté.
Oui, oui, ça me fatigue moi-même.
Tom est mort, c'est un livre qui vous reste à tout jamais dans la mémoire. Mm-hmm. Celui-là, je pense aussi qu'il va rester dans la mémoire. Et puis, il y a, alors parlons-en, Naissance des fantômes.
Oui.
Ça, c'est un de vos livres, Marie
Dariussec. C'est un livre pour lequel j'ai beaucoup d'affection. Oui.
Parce que les fantômes, ils sont aussi dans tous vos livres. Et la Rose, comme par hasard, elle a des dons de sorcellerie.
Oui, qu'elle maîtrise très mal, bien sûr, mais parce qu'elle est pataude dans tout ce qu'elle fait. Non, mais pour moi, c'est assez limpide, en fait. Hein. Je suis dans ce que j'écris. Et truisme, c'est ce travail avec les clichés et voir de quoi ils retournent dans les phrases. Et Naissance des fantômes, c'était complètement programmatique aussi. C'était tout mon pont vers le, disons, pas tant le fantastique que ce qui va dérailler dans le réel. Voilà, ce qui va faire... Ce qui est inquiétant dans le réel, et Dieu sait que c'est vaste. Et donc ces deux romans, je ne cesse de les rejouer, de les renouer, de les développer, parce que ce sont deux romans très brefs, c'est des romans de jeunesse, mais que j'aime beaucoup. Hein. Ils ont leur propre ratage, ils ont leur propre, je sais pas, manque, et je crois que je ne cesse de les réécrire, en fait. Et il y a toujours ce trop ou ce pas assez de corps, et puis j'espère quand même une... Mes personnages, c'est toujours c'est souvent des femmes, elles sont maladroites, elles sont très obstinées, très têtues. Et vraiment, il y a toujours quelque chose vers quoi elles vont, et même si elles ne savent pas très bien ce que c'est, quoi. Elles sont très, très vivantes.
Vous avez des dons, j'entends pas d'écrivaine, mais de sorcellerie.
Ma mère, si elle m'écoute d'ailleurs, fait des rêves prémonitoires assez perturbants et a dit qu'elle a des dons de télépathe. Pourquoi pas ? Je trouve ça extraordinairement romanesque. Et mes grands-mères étaient sorcières. Il y en avait une qui faisait tourner les tables. Il y en avait une qui voyait les fantômes, vraiment façon sixième sens. Elle les voyait vraiment. Et elle ne mentait pas. Cette femme ne mentait pas, ma grand-mère. Et pourtant, je ne pouvais pas la croire. Donc, elle m'amenait dans une zone. C'était une femme qui avait à peine le certificat d'études. Enfin, elle m'amenait dans une zone incroyablement romanesque et belle et mystérieuse. J'étais vraiment avec elle. Enfin, j'ai jamais pu lui dire que je la croyais pas, au fond. Parce que finalement, je la croyais. Ces témoignages de fantômes. Et elle n'était pas folle du tout. Je sais, j'ai été psychanalyste, enfin, je peux mesurer qu'elle n'était pas du tout psychotique. Donc il y a beaucoup de femmes comme ça de ma famille et puis de gens que j'ai côtoyés. C'est pour ça que j'ai une grande affinité aussi avec des zones où les esprits sont là, dans la forêt, dans le golfe de Guinée justement. J'ai beaucoup d'affinité, de familiarité avec ça. Et vous savez, dans le golfe de Guinée, sur les plages du Cameroun ou du Nigeria, quand les gens vous parlent de ce qu'il y a dans l'eau, de Mami Wata, de toutes ces sirènes, c'est les mêmes mythes qu'au Pays Basque, vraiment. Et les gens vous en parlent exactement comme on peut en parler au Pays Basque, c'est-à-dire ils y croient sans y croire. Et cette zone-là, c'est ma zone en fait, je l'explore.
Comme Marguerite Duras, un côté conteuse et en même temps un côté sourcière, savez-vous lever les brûlures?
Non, mais ma grand-mère le faisait, bien entendu. Et mon grand-père aussi, ouais. Alors, je vois, ça marche. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça marche. Bien sûr, c'est sans doute psycho, somatique, machin, mais on s'en fiche. Enfin, et les gens qui n'ont pas accès, justement, à la psychanalyse, bon, maintenant, ça s'est popularisé, d'ailleurs, plus ou moins bien, mais bon. Mais à l'époque de mes parents et de mes grands-parents, on n'allait pas voir le psy, on allait voir le rebouteux, on allait voir, et ça marchait très très bien. Il suffit qu'il y ait du transfert, comme on dit.
Dernière question, Marie Dariussec. Que faites-vous la nuit pendant les longues insomnies?
Je lis. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Et quand j'ai vraiment du courage, j'écris. Du coup, j'ai beaucoup de temps, c'est vrai. Auprès d'une certaine fatigue, mais qui est parfois hallucinatoire, donc qui est riche aussi.
Et puisque vous nous avez dit en début d'émission que vous lisiez vos textes à voix haute avant de les publier, je vous propose de terminer cette émission en lisant le dernier paragraphe.
Son mari brave l'interdiction. Il frappe à la porte. « Entre !» s'éveille Rose. Elle appelle Younes, il ne répond pas, mais ça sonne en Angleterre. Ça sonne anglais. La sonnerie en « bip, bip » au lieu du « dring » français. Elle met le haut-parleur et rit. Son mari la prend dans ses bras. Il est passé, Younes. Il est sorti du ventre de la baleine. Il a été recraché du côté désiré du rivage.
Merci infiniment, Marie Dariussec. Merci pour vos mots, merci pour la grâce de votre écriture et merci pour les thèmes extrêmement importants que, mine de rien, vous arrivez à mettre en place dans nos esprits et dans nos cœurs. Merci beaucoup.
Merci, Laura Adler.
Thank you. miss all the way. When Mingwe's the only, when the end me melon, when the end me Mingwe's, when the end me melon, so for me, so lonely man.
Le livre de Marie Darrieussecq s'intitule « La mer sans eux à l'envers » et vient d'être publié aux éditions POL. Merci à Élise Christophe qui était à la technique ce soir. Merci à Jean-Baptiste Audibert pour ses conseils musicaux. Merci à Élodie Royer, Adrien Nazelli et Louise Douillet. Et merci évidemment à Lilian Allôme qui a réalisé comme chaque soir cette émission. On vient d'écouter la belle chanson de Blic Bassi et Roseau intitulée « Cat ». Comme tous les soirs, eh bien, après le prochain journal d'information, vous aurez rendez-vous avec l'ami Mishka Assayas pour son Very Very Good Trip. Mais demain soir, pas d'heure bleue exceptionnellement, parce que il y aura un concert de France Inter présenté par Rebecca Manzoni avec une triple affiche Keren Anne, Aloïs Sauvage et le sublime Arnaud. C'est au Studio 104, ça commence à 20h. Et c'est jusqu'à 22h.